Religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Covid est notre moment Noé, ne le gâchons pas. C'est une des phrases choc tirée du livre du pape François « Un temps pour changer ». Synthèse d'échange par écrit entre le pape et le journaliste britannique Austen Ivrey. Le livre publié chez Flammarion est sorti cette semaine en France. Austen Ivrey, auteur d'une biographie de François, interpellé par la lecture de la pandémie qu'a fait le pape au moment de Pâques, lui a proposé d'écrire un livre avec lui et en mai, il recevait son accord. Un temps pour changer, avec pour sous-titre « Parlons, osons rêver » est une réflexion spirituelle, politique, sociale, économique sur le monde que la crise du Covid, pour François, nous appelle à construire. Au micro d'Éric Sénanc, correspondant de RFI au Vatican, Austen Ivrey donne les grandes lignes du diagnostic que fait le pape François du monde d'aujourd'hui.
C'est une compréhension différente de la politique que le pape développe et qui est très puissante. Il y a une crise majeure de légitimité de la politique aujourd'hui. Le fossé se creuse entre les institutions et le peuple. Le pape en parle, par exemple, en abordant la question du travail, le fait que la technologie crée de moins en moins de travail et accroît les inégalités. Tout cela nécessite une nouvelle forme de réponse, pas uniquement au niveau de l'État, mais de la société. C'est l'un des thèmes que le pape affronte. And these are some of the themes that the Pope touches on. And I think one of the interesting things about his Je crois que l'une des choses intéressantes dans sa lecture du monde actuel est qu'il voit une grande violation de la dignité dans l'évolution de notre économie, la destruction de notre environnement. Il met à nu les abus de pouvoir, la destruction des emplois, l'abandon des personnes âgées, etc. Mais dans le même temps, il perçoit une sorte de protestation contre tout cela, une sorte de prise de conscience du peuple qui monte, un peuple qui exige de nouveau sa dignité. Il le voit dans le mouvement MeToo, dans les manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd. Il donne de nombreux exemples. Sa vision de ce moment historique que nous vivons est qu'un changement est en train de se produire, et il vient du bas. Le pape cite dans la Bible le livre de Néhémie, où le peuple de Jérusalem s'est révolté contre ses dirigeants, pour ensuite reconstruire la ville avec ses énergies propres. C'est ce qu'il encourage dans ce livre.
Éric Sénanc, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Alors, vous avez rencontré, vous avez recueilli cette interview. Alors déjà, comment remettre en perspective ce livre du pape François, un livre d'entretien qui arrive au terme d'une année très particulière?
Oui, c'est vrai que c'est un livre qui s'insère dans une année 2020 qui a été très spéciale pour le pape parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année, le pontificat de François pouvait donner des signes un peu d'essoufflement. On se disait, mais où va finalement le pontificat de François, 7 ans après son élection? Il y a toujours des scandales, il y a toujours des lenteurs pas possibles dans la réforme de la curie. Bref, on a entamé cette année 2020 de manière un petit peu poussive, si j'ose dire. Et c'est vrai qu'au Vatican, il y avait même des rumeurs et on se demandait si le pape allait passer l'année. Alors vous savez que ça va très vite, bien sûr, les conjectures au Vatican. Et puis est arrivée cette crise sanitaire et le pape l'a traversée de manière assez paradoxale, dans le sens où on a l'impression qu'il a retrouvé de l'énergie en prenant de la hauteur, en regardant ce monde en crise et en essayant de se projeter après cette crise. Et c'est un peu la toile de fond justement de cet ouvrage, de ce journaliste britannique Austen Ivrey, qui connaît très bien le pape François puisqu'il était déjà son biographe. C'est le troisième livre qu'il écrit avec le pape. Et c'est vraiment la toile de fond de cet ouvrage. Voilà comment finalement 2020, le pape en fait une espèce d'année tremplin pour se projeter vers l'avant, pour penser à un monde différent.
Le monde de l'après-Covid.
Le monde d'après-Covid, exactement.
Alors, un monde qu'il veut effectivement tout à fait nouveau. Alors déjà, on retrouve les formules hein, de François dans ce livre. Là, j'ai noté quand il parle de ce personnel médical notamment, hein, et tous ceux qui sont donnés pendant cette période, il parle de saints, des saints ordinaires. Et ils sont les anticorps du virus de l'indifférence.
Oui.
Ça, c'est très François. Ça,
c'est très François. Des formules qui claquent, très, très argentines, qui puisent aussi dans son vocabulaire et son style très, très oral, en fait, qu'il a toujours eu, évidemment, quand il était curé puis évêque, archevêque de Buenos Aires, et qui garde finalement en tant que souverain pontife. Et il a toujours, le pape, c'est vrai, et François a toujours voulu remettre au centre ces personnes-là qui ont été en première ligne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le confinement, au printemps, lors de sa messe quotidienne qui était suivie par des millions de personnes à distance, à la télévision, il commençait toujours sa messe par une petite intention, en disant « Aujourd'hui, on va prier pour les infirmières, pour les artistes, pour les grands-parents, pour les mères de famille, etc. » Et chaque jour, il avait vraiment ce souci de remettre au centre ces personnes qui ont pu parfois être un peu oubliées.
Alors, une arche nous attend vers un nouvel avenir. C'est une des phrases que j'ai retenues, donc une image évidemment tout à fait biblique. Un pape qui comprend effectivement qu'on va vers un nouveau monde.
Oui, en fait, cette année 2020, on retrouve des choses chez lui qu'il avait déjà dites et écrites dans ses encycliques. Par exemple, Laudato Si, il y a 5 ans, sur le modèle de développement dans lequel on est, à savoir retrouver un monde qui ne soit pas que basé sur, évidemment, le profit, la finance, un monde qui mette au centre la personne humaine et le développement humain intégral, la protection de l'environnement. On retrouve tout ça, donc il n'y a pas de choses révolutionnaires, on peut dire. En revanche, cette année 2020 a, j'allais dire, mis encore l'accent de manière plus saillante sur toute sa catéchèse et tout son pontificat de ces dernières années. C'est ce qui fait un peu la force du livre, je trouve, c'est que c'est un peu la synthèse de son pontificat qui réapparaît comme ça à la faveur de cette crise sanitaire.
Alors, synthèse de son pontificat, toujours avec des notes tout à fait personnelles, et ça c'est très aussi dans le style François. Il va raconter, par exemple, que lui, il a vécu 3 Covid.
Oui.
C'est 3 Covid,
les
notamment
COVID personnels.
Les Covid personnels. Alors, le premier Covid chez lui, ça a été en 1957. Il a une vingtaine d'années. C'est le Covid de la maladie. Sa
oui,
maladie,
ça.
On lui a retiré
une partie du lobe pulmonaire. Il avait une grave maladie respiratoire et on lui a enlevé une partie du poumon. Et c'est vrai que ça a été un moment de souffrance pour lui. Et cette crise sanitaire lui a rappelé aussi ce moment de souffrance que tant de personnes peuvent vivre aujourd'hui aussi. Cette incapacité à respirer correctement qui, malheureusement, on l'a vu aussi, touche tant de personnes.
Alors, avec ce côté très spontané et puis ce mauvais caractère que l'on sent aussi du pape François, quand il dit « il y a une chose à retenir dans cette épreuve pour moi », c'est aussi la réaction des personnes qui venaient me voir et notamment celles qui venaient me dire que tout irait bien, qu'avec toute cette douleur, je n'aurais plus jamais à souffrir des choses vraiment stupides, des mots vides, prononcés certes avec de bonnes intentions, mais qui n'ont jamais rejoint mon cœur. Ça, c'est vraiment du pape François.
Oui, c'est typique, du pape François typique. Il y a toujours une forme de mauvaise humeur parfois qui peut...
Grincheux,
c'est ça. Et on le ressent aussi dans ses lignes quand il donne ces exemples-là. Oui.
Au-delà, effectivement, de ces expériences personnelles qu'il confie, avec beaucoup de sincérité, ce livre est un peu un catalogue quand même,
Éric
Sénand, parce qu'on y trouve de tout. Il va même jusqu'à parler de MeToo, même parler effectivement de toutes les statues qui ont été déboulonnées cette année.
Oui, en fait, il relie vraiment cette année 2020, donc il y a évidemment des thèmes d'actualité très fortes qui ont fait la une de l'actualité, le mouvement MeToo, le mouvement Black Lives Matter, il parle de George Floyd et de la mort de ce noir américain étouffé justement, et il dit, voilà, le peuple noir américain est en demande de dignité et c'est très louable et il les salue. Il parle des Ouïghours, cette minorité chinoise persécutée, alors qu'il n'en a jamais parlé évidemment. Et pour lui, on sent que à travers ces épisodes qui ont fait l'actualité cette année 2020, outre la crise sanitaire, ça lui permet de donner ces clés de lecture du monde justement pour penser le monde d'après. À savoir, et c'est une des idées majeures, c'est que les peuples, chaque peuple a sa dignité et a le droit de prendre la parole. C'est vraiment ça qui est important. Il le redit beaucoup. C'est une forme de rendre la parole au peuple, en fait. Ça, c'est une idée centrale dans cet ouvrage.
Avec aussi ce message envoyé à tout un chacun, c'est je pense à chaque groupe.
Voilà.
Alors, je pense à ceux qui sont dans les bidonvilles avec la Covid. Je pense effectivement aux Ouïghours. Je pense aux Rohingyas également.
Exactement.
Alors ça, est-ce que c'est un message adressé au monde musulman?
Je pense que oui, on peut le voir comme ça, c'est clair. Les Rohingyas, sa rencontre il y a 2 ans lors de son voyage au Bangladesh, il l'avait énormément marqué.
Oui, à Dakar, il les avait rencontrés.
Il avait rencontré cette minorité persécutée musulmane des Rohingyas. Les Rohingyas avec lesquels il avait pleuré, il avait souvent rappelé cet épisode. Et là, en effet, dans ce livre, il en reparle. Et c'est clairement un message, évidemment, à ces minorités musulmanes persécutées. On sait que cette année 2020 était aussi l'année de son encyclique Fratelli Tutti, critique est aussi très ouverte sur le monde musulman. Et à travers voilà cette relecture de l'année 2020, de cette pandémie, de cette crise, il envoie des petits messages justement aussi à ces communautés.
Alors justement sur cette année 2020 et notamment les mouvements raciaux aux États-Unis après l'affaire George Floyd, il parle de ces statues déboulonnées et ça l'inquiète.
Oui.
Ça l'inquiète. Il dit, il faut pas nier le passé.
Non, mais ça, c'est une idée. C'est une idée qu'il a toujours portée. Cette idée de la mémoire des anciens, la mémoire des grands-parents. Ça, c'est quelque chose que le pape François a toujours beaucoup porté en disant, on a besoin de racines, on a besoin de mémoire. Maintenant, il faut que cette mémoire soit éclairée évidemment par le présent. Il faut qu'elle ait un sens. Il faut pas que ça conduise à de la polarisation, à de la violence. Et évidemment, ces scènes-là, c'était de la polarisation et de la violence. On l'a vu à travers la société américaine, mais on peut le voir aussi ailleurs. Mais pour lui, il ne s'agit pas d'effacer, bien entendu, le passé. Donc, il ne s'agit pas de déboulonner des statues. Donc, c'est une idée quand même assez forte qu'il a voulu rappeler aussi dans cet ouvrage. Oui.
Et son inquiétude, alors sa grande inquiétude toujours face à l'individualisme de nos sociétés. Ouais. Et en disant d'ailleurs, l'hyperinflation de l'individu va de pair avec la faiblesse de l'État. Une fois que les gens perdent le sens du bien commun, l'histoire montre que nous finissons avec ou l'anarchie ou l'autoritarisme.
Oui. Ouais. Oui, ça c'est une idée aussi très forte quoi dans son idée d'un monde où chacun finalement va apporter sa revendication un peu catégorielle, parfois égoïste, qu'il l'estime en tout cas égoïste, où finalement on vit dans des sociétés qui se fracturent, qui ne retrouvent plus ce sens de l'intérêt général, de l'intérêt commun. Il est très inquiet face à ces risques de fracture des sociétés, le pape François, il le redit à travers cet ouvrage. Et en même temps, il lance vraiment un avertissement à la responsabilité des politiques. Il le dit souvent aussi dans d'autres discours, de prendre en compte justement, d'écouter la parole de ces peuples, on l'a dit tout à l'heure, mais toujours dans une perspective de la bonne politique, quoi, la politique au service du bien commun. Quoi. Mais c'est vrai que ces mouvements centrifuges qui peuvent dériver vers des revendications individualistes, surtout quand elles sont liées à des intérêts économiques, ultralibérales, etc., ça c'est évidemment, c'est pas du tout sa ligne, ça l'inquiète particulièrement.
Ouais. Est-ce que pour vous, Éric Sénanc, c'est un livre plutôt optimiste malgré tout.
Oui, je pense, parce que le pape, et d'ailleurs c'est un des sous-titres du livre, c'est « Rêvons, osons rêver ». Il parle beaucoup du rêve, il parle beaucoup de la manière de se projeter vers l'avant et il n'écarte pas des réalités difficiles, mais il essaye de faire appel au meilleur de l'homme, au meilleur quand chaque personne veut retrouver sa dignité, a besoin de retrouver sa dignité. C'est dans un message vraiment positif qu'il le dit. Donc je pense que c'est un pape qui peut être inquiet sur le constat qu'il fait du monde, mais c'est quand même un pape qui est résolument tourné vers l'avenir de manière quand même assez optimiste.
Éric Sénanc, correspondant de RFI au Vatican. La proposition arrive dans les dernières pages du livre du pape François, Un temps pour changer. Il s'agit du revenu universel, un sujet débattu depuis quelques années et qui est apparu en France lors des dernières élections présidentielles portées par le candidat PS Benoît Hamon. Le travail devenant rare, il faut, je reprends les mots du pape François, dépasser l'idée que celui-ci peut être lié au salariat, que par exemple s'occuper des parents âgés, c'est en soi apporter une valeur à la société et que dans l'après-Covid, il faudra reconnaître la valeur de ces emplois dits bénévoles. Ce qu'en pensent les économistes de cette proposition de RBU, le revenu de base universel proposé par le pape François, on écoute Thierry Fabre, rédacteur en chef à Challenge, l'hebdomadaire économique. Bonjour Thierry Fabre.
Bonjour.
Alors, que penser de cette proposition du pape François? Déjà, dans la société, on en parle effectivement depuis quelques années, en France notamment.
C'est ça, donc c'est un sujet qui a été mis sur la scène médiatique et politique lors de la campagne de 2017, sujet porté par Benoît Hamon, qui proposait un revenu universel de 750 euros pour tout le monde. Parce que c'est ça le point important de ce revenu, c'est qu'il est accordé à tous les habitants d'un pays, tous les adultes en tout cas, et qu'il n'est pas en lien avec un travail ou une situation sociale. C'est-à-dire qu'il n'est pas réservé aux plus défavorisés, mais il est attribué à tout le monde, sans contrepartie. Et il avait été très discuté en France, depuis on en parlait beaucoup moins, et il est revenu sur le devant de la scène récemment avec la crise du Covid, et de plus en plus de politiques, et là le pape porte cette proposition, qui est alimentée par les craintes, notamment d'aggravation de la pauvreté liée à la crise sanitaire. Et c'est pour cela qu'il revient sur le devant de la scène, puisque on voit bien qu'une bonne partie des habitants en France et ailleurs passent au travers des filets de la protection sociale et qu'il faut donc inventer un nouveau type de revenu, notamment pour faire face à l'aggravation de la pauvreté.
Et face à une société où le travail sera de plus en plus rare avec la digitalisation.
Alors c'est la grande question, c'est-à-dire que certains effectivement ont peur des conséquences sur l'emploi et donc se disent qu'il faut un revenu de base, ou ont peur d'un travail peu qualifié, parce que la tendance que l'on voit au-delà du chômage qui risque d'augmenter, c'est le fait qu'il y a ce que les économistes appellent une polarisation de l'emploi, avec de plus en plus d'emplois peu qualifiés et des emplois très qualifiés. Mais entre les deux pôles, il y a une disparition des emplois intermédiaires. Et donc c'est effectivement une grande crainte, et donc pour y faire face, il y a notamment la solution du revenu universel.
C'est ce qu'effectivement dit le pape en parlant effectivement d'emplois particulièrement précaires qu'il faudrait refuser et effectivement mettre à la place ce revenu universel. Mais que je comprenne bien, quand vous dites 750 euros pour tout le monde, ça veut dire tout le monde, les salariés, non salariés?
C'est ça, dans l'utopie, si vous voulez, c'est une idée pour l'instant utopique, puisque elle n'est quasiment pas appliquée. Il y a certaines régions où c'est appliqué, par exemple en Alaska, mais c'est un pays très particulier qui bénéficie d'une rente pétrolière. Mais il y a pour l'instant quelques expérimentations. C'est une utopie parce que ça coûterait effectivement très cher de donner à tout le monde un revenu de base, quel que soit son statut. Et c'est une idée qui, c'est intéressant, qui est à la fois partagée par des économistes ou des politiques libéraux et des économistes de gauche, et donc on me le voit aussi par l'Église. Mais chacun ayant sa philosophie, à droite, enfin côté libéral, c'est pour promouvoir un peu l'individualisation, c'est-à-dire avoir un revenu qui permet de construire sa vie sans avoir de problèmes financiers. Et la gauche met en avant le côté justice sociale d'une mesure et la lutte contre la pauvreté. Mais en tout cas, c'est une idée qui monte, mais pour l'instant qui reste une utopie, puisqu'elle n'est pas appliquée et qu'elle a un coût énorme. Et donc évidemment, la question qui se pose, c'est comment la financer. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé la solution.
Je vous remercie Thierry Fabre. Je rappelle donc que vous êtes rédacteur en chef à Challenge. Merci.
Merci beaucoup.
Situer cette réflexion du pape François sur l'après-Covid, réflexion spirituelle, politique, sociale, économique. Avec nous, dans ce studio, le journaliste et essayiste, spécialiste de la vie de l'Église et des papes contemporains, Denis Lancel, qui signe chez Pierre Tecky, François le successeur, La complémentarité des papes, un essai qui tente à démontrer que les papes s'inscrivent dans une continuité, pour le XXe siècle, et bien de Jean XXIII à François, en passant par Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II et Benoît XVI. Bonjour, Denis Lancel. Alors, dans cette galerie de portraits, j'ai retenu dans les prises de parole et les écrits de François l'inspiration très nette du pape Paul VI. Mais déjà, un trait commun quand même entre tous ces papes, bien c'est la résistance spirituelle.
Oui, tous ont été des résistants spirituels. Déjà, le futur Jean XXIII et le futur Paul VI ont été des opposants déterminés dès leur jeunesse au fascisme italien. Alors ensuite, Jean-Paul II, en tant que fils de la Pologne qui a été écrasé à la fois par le nazisme et le communisme, a été lui aussi forcément un opposant, et il l'a bien montré en contribuant au renversement du mur de Berlin. Alors Benoît XVI, lui, était le fils d'une famille bavaroise profondément réfractaire au nazisme. Et puis, Le pape François. Eh bien, le pape François a été élevé par une grand-mère qui avait fui l'Italie fasciste après s'être opposé ouvertement à Mussolini. Et puis, une fois devenu, alors, devenu pape, mais déjà avant, comme jésuite et archevêque
de Buenos Aires,
le pape François a été un opposant déterminé à la dictature militaire argentine.
Et pourtant,
pacifique, mais déterminé.
Ça lui a été reproché de ne pas être monté en première ligne.
Il était non-violent. Il s'est opposé, en fait, à tous les extrêmes. C'était une situation difficile, mais il a refusé absolument toute violence, autant cette violence d'État que les dérives dites révolutionnaires. Et c'est cela, c'était une sorte de ligne de crête difficile qu'il a tenue.
Alors, je parlais...
Et puis, aujourd'hui, bien sûr, il s'oppose au ce qu'il appelle le totalitarisme de l'argent. Et en cela, on peut dire qu'il est, lui aussi est un résistant spirituel.
C'est ça, effectivement, on le voit aussi bien dans Fratelli Tutti que, effectivement, dans ce dernier livre, sur l'après-Covid.
Et il dénonce toujours ce qu'il appelle l'idole argent. Alors, à la fois dans Fratelli Tutti et déjà auparavant, par exemple, dans tous ses écrits, mais auparavant, dans Laudato si, par exemple. Cela s'est inspiré, en fait, par son idéal franciscain, d'ailleurs.
Oui, Laudato si, donc, il y a 5 ans, hein, en 2015, c'est l'encyclique sur la préservation de la planète.
Hein. Absolument. Et ça, il a conçu un idéal d'écologie intégrale qui défend à la fois l'être humain dans toutes les étapes de la vie, de la conception à la mort naturelle, mais aussi dans toutes les étapes, par exemple, du monde du travail, et puis la nature créée par Dieu, mais dans laquelle, bien sûr, nous vivons tous.
Alors, précisément, sur cette influence du pape Paul VI qui sera canonisé par François.
Absolument.
En 2018, sur cette influence, on peut relever la grande encyclique du pape Paul VI, Populorum Progresso.
Notamment, pas que. Mais notamment, effectivement, ça c'est un des points essentiels avec plusieurs thèmes. Et ça, c'est le thème, je dirais, de la fonction sociale de la propriété avec la destination universelle des biens. Et là-dessus, alors, cette encyclique de 1967 qui a énormément influencé, effectivement, Bergoglio, le futur pape François, et qui a été très déterminant parce qu'en fait, elle visait beaucoup l'Amérique latine, avec le thème de la destination universelle des biens,
avec le thème
du développement. En fait, c'est une charte du développement que Paul VI a écrit là.
Au moment des décolonisations aussi.
Oui, c'était après la colonisation, et ça comptait beaucoup en Afrique, et évidemment aussi, mais également en Amérique latine, ça intéressait l'ensemble du tiers-monde. Et puis, il y a, je dirais, la charité sociale et politique, deuxième thème, avec le thème de la civilisation de l'amour que Paul VI a proclamé en 1975 et que dans Fratelli Tutti, le pape François rappelle. Et puis, alors, autre thème, enfin ça c'est le thème auquel vous pensez aussi sans doute, c'est le rejet de la guerre à l'époque nucléaire. Thème très général que Jean-Paul II évoquait aussi bien sûr, mais ici il y a un point très particulier, très fort, que le pape François a rappelé et a repris à son compte. Il a repris une idée que Paul VI avait exprimée en mars 1967, encore dans Populorum Progressio. C'est un appel à supprimer les budgets militaires des armes atomiques, des armes nucléaires, en les remplaçant par la création d'un fonds mondial, financier, pour le développement contre la faim et pour le développement des pays pauvres. Et cela... Le pape François l'a rappelé, a redemandé cela lors de son voyage au Japon, à Hiroshima et à Nagasaki, dans un des lieux hautement symboliques.
Paul VI, Denis Lancel, en 1968, va aller à Medellín, à la fameuse conférence de Medellín, qui réunit les évêques d'Amérique latine. Et c'est là où les évêques vont déterminer leur position, en quelque sorte, sur leur attitude vis-à-vis de toutes ces dictatures en Amérique latine et vis-à-vis aussi du développement.
Et vis-à-vis du thème du développement et du thème de la misère aussi, de tous les défis de la très grande pauvreté. Et c'est là qu'en fait on aborde. Alors, il y a deux défis, parce qu'il y a le défi, il y a la tentation de révolution violente, mais il y a aussi, en fait, on débouche, alors, le refus de la violence d'une part, bien sûr, mais il y a surtout la proclamation de ce qu'on va appeler l'option préférentielle pour les pauvres. Et ça, c'est la voie suivie par Paul VI et qui va être reprise ultérieurement, très vite, par le pape François.
Même si Jean-Paul II, lui, l'option préférentielle pour les pauvres, il voyait dans cette option des relents trop marxisants, faut quand même le préciser, en Amérique latine.
Jean-Paul II avait accepté quand même cette expression, mais Jean-Paul II se méfiait. Jean-Paul II, qui bien sûr,
c'est normal, il venait de l'Est,
influencé par évidemment la confrontation avec le communisme. Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger, le futur Benoît XVI, qui était son bras droit. Jean-Paul II, effectivement, se méfiait un peu des risques de marxisation qui pouvaient exister dans certains pays d'Amérique latine. C'est vrai. Mais alors, il y a un autre personnage qui est très important, je voudrais citer ici. C'est un personnage qu'on a beaucoup oublié, mais qui a été papabilé, lui, j'allais dire, au moment où on a élu Jean-Paul II. C'est le cardinal Pironio, un Argentin.
Tout le monde a oublié. Hein.
Mais oui, Argentin d'origine italienne, qui ressemblait étonnamment à ce qu'est devenu à Bergoglio.
Qui a énormément influencé la pensée sociale de Bergoglio.
Totalement, parce que c'était un autre disciple de Paul VI, il est même venu à Rome aux côtés de Paul VI, un collaborateur de Paul VI, et c'était un professeur de séminaire d'un certain Jorge Bergoglio, le jeune jésuite qui est devenu, bien sûr, comme on le sait, le pape François. Et Monseigneur Pironio a été, lui aussi, un des artisans de toute cette réflexion sur le développement et sur cette option préférentielle pour les pauvres, notamment. Et il a joué un rôle très important. Et puis, il est mort d'un cancer. Alors, ce qui fait que, lui, il n'est pas devenu pape. Eh bien, c'est donc Bergoglio, qui était presque un de ses élèves, enfin, tout en étant disciple de Paul VI, qui est devenu pape.
Et qui a mis au point en Argentine, si je puis dire, cette théologie du peuple,
oui,
qui ne se situait ni à droite ni à gauche.
Oui, parce que ce qui est très intéressant chez le pape François, c'est qu'il a dit quelque chose de très intéressant, d'ailleurs. Un jour, il a une formule intéressante. Il a dit, en fait, il ne s'agit pas d'adopter des idéologies, mais des personnes. Il s'agit, ne faut pas servir, voilà, le service ne doit pas adopter ne doit pas servir des idéologies, il doit servir des personnes. Et le pape François, ça montre bien quelle a pu être son attitude au moment notamment tragique de la dictature des généraux d'Argentin. Le pape François, le futur pape François, Jorge Bergoglio, n'a jamais voulu pencher ni à droite ni à gauche, c'est ce qui n'a pas toujours été compris. Il a toujours évité les extrêmes, parce qu'il s'est toujours méfié des déformations idéologiques de l'Évangile.
Alors, vous le citez sans pour autant vous étendre, dans cette galerie de portraits, Denis Lancel, c'est Pie XI. Et Pie XI, il y a, semble-t-il, une véritable continuité, Pie XI, Pie XII, Paul VI...
Oui.
Et François.
Alors ça, c'est
pourquoi
très intéressant. Alors pourquoi ?
Donc Pie XI qui est mort en 1939.
Il est mort juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
Pie XI, deux grandes encycliques, une contre le nazisme, l'autre contre le communisme.
Oui, Mit Brennender Sorge et Divini Redemptoris. Et puis, sachant que d'ailleurs, celle qui est contre le nazisme, le Pie XII en a été un des véritables rédacteurs du fait de la maladie de la vieillesse de Pie XI. Et puis Pie XI, en même temps, Pie XI, le pape anti-totalitaire, était ce que l'on sait moins, mais ce que le pape François a rappelé, ce que Paul VI avait repris d'ailleurs, mais ce que le pape François a rappelé tout récemment dans son encyclique Fratelli Tutti, Pie XI était très opposé au capitalisme sauvage parce qu'il a dénoncé, je cite, l'impérialisme international de l'argent. Cela, dans son encyclique Quadragesimo Anno en 1931, deux ans après la crise économique de 1929, pour fêter, en l'occurrence, pour célébrer aussi les 40 ans de la grande encyclique sociale de Léon XIII, Rerum Novarum, qui était fondatrice de la fameuse doctrine sociale de l'Église. Pie XI, donc, qui, en plus, était un homme, alors, de caractère assez fort, un homme prompt à s'emporter par moments.
Il y avait des colères, c'est ça, hein?
À la fois ombrageux et généreux, un peu comme les, dit-on, le pape François. Mais des hommes qui savaient prendre position et des hommes qui savaient dire non.
Alors, est-ce que l'on peut dire des hommes de gauche ou pas? Ou ça n'a aucun sens?
Non, ça n'a pas de sens. Pour l'Église, je pense qu'il n'y a pas ni de gauche ni de droite, vous savez.
C'est le reproche que lui font les Américains. Hein,
oui, c'est ce que François, le reproche que font des esprits, à mon avis, superficiels, si je puis me permettre. Quand le Christ a été crucifié, de quel côté était le bon larron? Était-il à sa droite ou à sa gauche? Si on regarde en face, ou de quel côté faut-il regarder? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de droite ou pas de gauche. Il n'y a pas de pape de droite ou de gauche. Le pape, c'est le pape de tout le monde. L'Église est universelle. Si un pape peut-être se dire de droite ou de gauche, ça n'est plus, il trahit sa mission. Il est le pape du monde entier, de tout le monde.
Je vous remercie, Denis Lancel. Je rappelle le titre de votre livre, François le successeur, la complémentarité des papes, et c'est publié chez Pierre Tecky. Merci. François est très populaire à l'extérieur de l'Église, il compte aussi de solides détracteurs à l'intérieur, mais pas que, en Europe, aux États-Unis et dans les murs du Vatican. François Phobie, François Bashing, aux éditions du Cerf, c'est le titre qu'a donné à son essai l'historien de l'Église et le biographe de pape contemporain Yves Chiron, notre invité. Yves Chiron, bonjour.
Bonjour.
Selon vous, est-ce que le pape François est le pape le plus clivant concernant les papes du XXe siècle ?
Il est clivant, je dirais, quasiment depuis le début de son pontificat. Et je pense que, évidemment, les moyens nouveaux de communication, je veux parler des blogs, d'Internet, des réseaux sociaux, comme on dit, on va dire accentuent un phénomène que d'autres papes ont pu connaître, ont eu à subir. Mais voilà, l'époque contemporaine avec une information instantanée, mondialisée, où chacun commente, analyse les choses, font que ce pape est sous le feu de projecteurs, de critiques ou de campagnes de détestation, beaucoup plus que ses prédécesseurs, oui.
Vous avez voulu vous positionner en défenseur du pape François ou défenseur tout bonnement de l'institution, hein, de la papauté du Vatican?
Non, je ne cherche pas à défendre le Vatican en général, ni même d'ailleurs à défendre le pape François sur tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. En revanche, je pense que pour même mener une critique qui serait constructive, il faut soit en référer au texte même, aux faits, aux événements, aux décisions qui sont prises. Et je constate que quand même, sur de nombreux sujets, on fait dire au pape des choses qu'il ne dit pas, on lui prête des intentions qu'il n'a pas, et on mène parfois des campagnes à répétition qui peuvent ne pas intéresser un large public, mais qui minent un peu de l'intérieur, je dirais, l'Église.
Oui, effectivement, vous évoquez les fake news, hein, Yves Chiron, concernant le pape François. Il y a un exemple d'ailleurs, c'était concernant l'enfer. Hein, dans votre livre, à un moment donné, vous parlez d'un journaliste qui prête au pape les propos suivants. En gros, l'enfer n'existe pas. Alors, ce qui, bon, effectivement, pour un pape, peut surprendre.
Oui, effectivement, l'exemple est typique, je dirais. Bon, là, en l'occurrence, il s'agit d'un journaliste italien bien connu, on va dire qui est, il se cache pas d'être athée, mais qui...
C'est le fondateur de la Repubblica, quand même. Hein,
voilà, ouais, grand journal de référence, oui. En Italie, et qui néanmoins a voulu entrer en dialogue avec le pape. Le pape a accepté de mener ce dialogue, si on peut dire, et donc il lui a accordé, au fur et à mesure des années, plusieurs conversations.
Des entretiens.
Et puis, le journaliste en question, fait des articles à la suite de ça, mais qui ne sont pas, je dirais, une interview classique, comme celle qu'on est en train de mener, ou que celle qu'on pourrait mener à travers un journal, où il y a des questions, des réponses, et où éventuellement, celui qui répond peut vérifier que ses réponses sont bien retranscrites. Donc là, dans ces entretiens avec le pape François, ce journaliste, à plusieurs reprises, hein, c'est arrivé, lui attribue, on va dire, des propos, des formules qui ne sont pas les siennes. Hein, et donc sur l'enfer, il a tiré d'un propos du pape une affirmation qui ne correspond pas du tout, je dirais, à ce que pense le pape, à ce même, à ce que croit le pape, puisque à plusieurs reprises, et c'est même quasiment, je dirais, une caractéristique de ce pape, il parle fréquemment du diable, de l'enfer, etc. De ce point de vue-là, c'est vraiment pas un pape, on va dire, moderne ou à la page, ou qui chercherait à modifier la doctrine de l'Église, les croyances des chrétiens sur ce point-là. Mais et donc ça, c'est un phénomène qui, parmi d'autres, fait que la parole du pape peut être déformée, détournée, soit par des facilités journalistiques, soit dans un but, hein, je dirais, idéologique.
Mais est-ce que, précisément, le pape François n'est pas victime de trop de paroles ? D'une façon générale, les hommes publics, hein, que ce soit les politiques et même aujourd'hui les religieux, parlent beaucoup. Alors, parlent beaucoup, notamment les papes, ils parlent beaucoup dans les avions, par exemple. Et parfois, oui, oui. Ça se retourne contre eux, hein, les paroles en plein air.
Oui, oui, mais vous avez raison, en ce sens que, bon, d'une façon générale, on voit ça, on va dire, sur la très longue durée, hein. On voit qu'au XXe siècle, les papes écrivent, si on peut dire, de plus en plus, avec de nombreuses encycliques, des lettres apostoliques, des allocutions qui sont diffusées, imprimées, etc., très nombreuses. Vous voyez, si on fait le corpus entre Pie XI, Pie XII et Paul VI, et maintenant le pape François, les volumes augmentent quand même. Et puis, dans le cas du pape François, effectivement, c'est parce que c'est son caractère, sa nature, et aussi, je dirais aussi, une sorte de souci pastoral, c'est lui. Il aime parler aux journalistes ou lors d'audience ou lors de rencontres, et il parle, je dirais, sans filtre.
De façon
avec
très spontanée,
un langage
oui.
Qui parfois lui est vraiment propre, qui est très particulier. Il y a eu même une étude italienne où où un linguiste italien a analysé le langage du pape. Et forcément, dans tous les papes, enfin du XXe siècle qu'on a connu, c'est celui qui use d'un vocabulaire, je dirais, le plus imagé, le plus pittoresque, parfois même à la limite du langage familier, pour ne pas dire vulgaire, enfin familier, on va dire, un langage, vous voyez, qui est celui d'un Argentin qui ne fréquentait pas l'élite de la société argentine, mais qui fréquentait le peuple d'Argentine, etc. Et donc un langage parfois très familier qui peut même parfois choquer les théologiens. Il a eu des formules sur la Vierge Marie, alors que c'est un grand dévot de la Vierge Marie, des formules qui ont heurté certains théologiens parce qu'il expliquait que, en gros, on n'en avait rien à faire de définir de nouveaux dogmes par rapport à la Vierge Marie, etc. etc. Et effectivement, l'habitude qu'il a prise, que ses prédécesseurs, notamment Benoît XVI, ont pratiqué parfois, mais pas de façon systématique comme lui, c'est que à chaque fois qu'il voyage à l'étranger, un voyage apostolique, au retour, il a une, on va dire, une libre conversation avec les journalistes qui l'accompagnent, qui sont toujours très nombreux, et donc ils peuvent poser des questions. Le pape y répond de façon très, on va dire, directe et libre, sans préparation, sans papier. Et puis, surtout, ses réponses, non seulement sont retranscrites ou pas par les journalistes, mais dans tous les cas, sont toujours diffusées par la salle de presse du Vatican et même mises, on va dire, dans le corpus pontifical disponible sur Internet, par exemple, sur le site du Vatican. Et donc, les paroles du pape, à la limite, prennent autant d'importance que si c'était une encyclique ou un document doctrinal plus important. Oui. Et donc là, effectivement, je dirais, pour un théologien, c'est quelque chose qui, bon, peut amener à des déconvenues, à des surprises.
Yves Chiron, une question. Il y a un paradoxe autour de François, c'est qu'il est effectivement moins critiqué en dehors de l'Église que dans l'Église. Quelle est votre explication ?
Effectivement, c'est que en dehors de l'Église, certains thèmes qu'il aborde sont, on va dire, en consonance avec beaucoup des préoccupations modernes ou des combats de certains, etc., ou des sujets dramatiques qui concernent tout le monde. Hein. Je sais pas, je pense à un sujet comme l'immigration ou un sujet comme l'écologie. Tous les pays sont concernés, toutes les populations sont concernées, toutes les populations ou les dirigeants politiques cherchent à y donner des réponses, quelle que soit, je dirais, la confession religieuse que l'on a, qu'on soit musulman, catholique ou baptiste aux États-Unis, chacun est concerné par l'immigration, chacun est concerné par l'écologie. Donc les propos du pape sur ces sujets reçoivent une certaine audience, et sont plus ou moins acceptés, mais généralement sont bien compris, bien acceptés par l'opinion publique, les médias généraux, etc. En revanche, certaines positions ou certaines expressions du pape peuvent heurter dans l'Église catholique soit des théologiens, soit même des cardinaux, des évêques, soit des simples fidèles. Et donc il y a un décryptage à faire pour ne pas faire dire au pape ce qu'il ne dit pas. Oui, je vais prendre un exemple, l'encyclique sur l'écologie. Bon, c'est le premier pape à avoir fait une encyclique sur le sujet, même si le sujet intéressait ses prédécesseurs et si les papes précédents s'étaient exprimés sur l'environnement, etc. Mais l'encyclique sur l'écologie a été considérée par certains milieux comme une encyclique anticapitaliste. Ou encore son encyclique la plus récente sur la fraternité, là, elle a été qualifiée par une organisation très catholique américaine comme une encyclique socialiste et utopique.
Oui, elle était vue comme aussi comme un encouragement à l'immigration. Hein. Ça peut être effectivement dénoncé, par exemple, en
voilà.
France.
Voilà. Bon, et sur l'immigration, le pape, a une vision, non pas théorique, mais une vision générale, une vision chrétienne, qui est exprimée, sur le mode de l'exhortation. Mais il ne faut pas tirer hors de son contexte telle ou telle phrase. Sur l'immigration, le pape, bien sûr, plaide et répète ça comme un slogan qu'il faut bâtir des ponts et non pas dresser des murs. Et là, il visait évidemment directement la politique américaine.
Trump. Donald Trump, oui.
Donc, des ponts et non pas des murs, politique de l'accueil, etc. Mais en même temps, il y a des textes, et ceux-là, ils ont autant de poids, d'importance, de valeur que les autres, des textes où le pape considère néanmoins que les pays doivent accueillir à proportion de leurs possibilités, on doit aussi avoir le souci de défendre leur identité, etc., etc. Donc,
mais alors justement, est-ce que ça n'est pas le problème de François? C'est son style jésuitique.
Bon, il est sûr qu'il sa formation jésuite a imprégné fortement, à la fois sa spiritualité et puis sa façon de raisonner et aussi sa façon d'exposer les questions ou de traiter les questions, ça c'est certain. Mais c'est un pape de l'Église catholique qui se pose d'abord en pasteur. Vous voyez, par rapport à Benoît XVI, qui lui était davantage théologien, doctrinal, bien sûr. Là, on a un pape pasteur qui vise d'abord les personnes et dans le cas de l'immigration, il dit en face de nous, on n'a pas d'immigrants, on a des personnes qui souhaitent venir en Europe ou en Amérique, etc. Et donc, il réagit en pasteur, il s'exprime en pasteur et puis, ses positions peuvent parfois être incomprises par les fidèles ou des théologiens ou même des évêques.
C'est principalement le corps de votre livre, La francophobie, publié aux éditions du CERF. L'opposition au pape François, c'est essentiellement au sein de la curie, à l'intérieur. Le plus emblématique, c'est cet ancien nonce à Washington, Monseigneur Vigano, qui, à un moment donné, je crois que c'était en 2018, a demandé au pape sa démission, carrément. C'est quand même assez, effectivement, c'est assez nouveau dans les affaires du Vatican. Votre livre rappelle d'ailleurs celui de Marco Politti, ce vaticaniste, François parmi les loups. Alors, quelques mots effectivement sur ce Vatican et cette affaire emblématique de Monseigneur Vigano.
Oui, Monseigneur Vigano qui a été nonce aux États-Unis.
À Washington, oui. Oui.
À Washington, donc là, ces jours-ci, on a évoqué le cas McCarrick à nouveau.
Oui, donc on va rappeler pour nos auditeurs, hein, donc l'ancien archevêque de Washington,
voilà,
qui a été réduit à l'état laïque par le Vatican du fait d'un lourd dossier de prédation sexuelle, hein, auprès de ses,
voilà,
séminaristes.
Oui, oui. Hein. Je dirais que c'est un cas évidemment tout à fait grave et même ancien, puisque les rumeurs sur le comportement de tout à fait déviant et scandaleux du cardinal américain datent des débuts des années 90, hein, avant même qu'il soit à Washington, bien sûr. Et donc le Monsieur Vigano, qui lui n'est pas cardinal, qui était nonce apostolique à Washington, a dénoncé ces comportements en 2018. Et il s'est donné, on va dire, un peu la part belle dans cette affaire, se présentant comme celui qui a alerté les papes, la curie, le Vatican en général sur ce cas. Et donc ce cardinal McCarrick aurait été protégé jusqu'à l'extrême limite par le pape François. Bon, cette histoire, évidemment, est tout à fait déformée par Mgr Vigano. Et déjà dans mon livre, je montrais que, en fait, les sanctions prises par le pape François succédaient à des décisions prises par Benoît XVI. Et plus récemment, donc ces jours-ci, un rapport tout à fait très important de plus de 400 pages a été publié sur toute cette affaire.
Mais ça blanchit en fait le pape François.
Voilà. Ouais. Et que Vigano lui-même n'a pas fait sans doute tout ce qu'il aurait pu faire. Donc ça blanchit le Saint-Siège au sens où il n'y a pas eu de protection. En revanche, il est sûr que dans les procédures pour enquêter sérieusement et prendre des sanctions contre ce cardinal, ces procédures ont été longues à mettre en œuvre, incertaines et forcément insuffisantes. Bon, pour résumer les choses, à un moment, Jean-Paul II a cru avoir assez d'éléments pour ne pas le nommer à Washington, et puis par une intervention de McCarrick lui-même, au secrétaire de Jean-Paul II, il a été convaincu que finalement tout ça c'était des racontars, et donc il l'a nommé à Washington. Or, les faits étaient bien, non pas bien établis du point de vue judiciaire ni canonique, mais les faits étaient rapportés déjà de multiples sources, avec une difficulté, c'est qu'il s'agissait de dénonciations, on va dire, anonymes. Et l'Église n'aime pas les dénonciations anonymes, veut que les choses soient établies.
En conclusion, Yves Chiron, on peut dire qu'effectivement, les plus grands détracteurs du pape François se trouvent à l'intérieur. Est-ce que le pape François, avec son tempérament quand même, hein, c'est un homme qui s'est réformé, c'est un homme d'autorité, est-ce que l'on peut dire qu'il a accompli des grands pas? Est-ce que l'on peut dire que bon, ses détracteurs n'ont pas eu raison sur lui?
Bon, disons, il y a quelques évêques, quelques cardinaux détracteurs, mais il y a aussi des cardinaux qui prennent sa défense. Hein. Sur certains sujets, on voit qu'on a des cardinaux qui montent au créneau pour essayer de rétablir la vérité sur ce que fait le pape. Ensuite, son œuvre, il est trop tôt pour en juger sans doute, mais là, on a quand même plus de 7 ans de pontificat. Il y a une réforme de l'Église qui est en voie d'être achevée, et on attend depuis longtemps déjà une constitution qui va réformer l'ensemble de la curie, même si certaines choses ont été faites. Et puis, sur ce qui est de la corruption des finances, là, on peut dire qu'il a accéléré ce qui avait été engagé déjà par son prédécesseur Benoît XVI. Hein. Parce que dans les cardinaux, il a quand même démissionné à lui seul 4 cardinaux.
Ce qui n'est pas rien. Je vous remercie, Yves Chiron. Je rappelle le titre de votre livre, François Phobie, et c'est publié aux éditions du CERF. Merci. Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.